Jean-Lô, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'où vient votre intérêt pour la photographie ?
L'intérêt pour la photographie, ça remonte très loin, puisque quand j'étais gamin, ma mère, je suis né à Saigon, donc de parents de famille déplacés, puisque mon père était originaire de Shanghai à cause des Japonais, donc la famille était déplacée, donc il s'est retrouvé en Indochine. Ma mère était d'une famille aussi déplacée à cause de l'invasion des Japonais sur la côte chinoise, donc elle s'est retrouvée aussi au Nord Vietnam. Et mes parents se sont rencontrés, sont mariés, et puis voilà, les enfants sont nés à Saigon, donc j'ai grandi dans le Saigon indochinois. Et ma maman avait eu l'idée de faire une photo de famille tous les ans, une fois par an, un portrait de famille. Et puis on devait envoyer la photo à mon grand-père qui habitait à Shanghai, qui ne pouvait pas sortir. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience du portrait officiel de famille. Et en plus, mon père avait un Rolleiflex, donc prenait des photos de nos anniversaires, du Nouvel An chinois, de Noël, etc. Bon. Et puis quand j'ai commencé à aller à l'école, donc j'étais tout de suite en pension en France, mes parents m'ont donné un petit Olympus Pen. C'était un petit appareil où une pellicule de 36 poses, on pouvait faire 72 poses. Tu vois, c'est un négatif coupé en deux, donc on peut faire deux poses sur un. Donc ça permet de prendre pas mal de photos. Et comme j'étais chez des jésuites dans le Jura, les pères jésuites m'ont dit « Jean, pourquoi tu dépenses tout cet argent en allant dans la boutique de photos en ville ? On a un laboratoire, une chambre noire. » J'ai dit « Oula !» Donc j'ai appris à développer mes photos et faire les tirages de mes photos noir et blanc, comme ça. Et en plus, dans ce collège jésuite, il y avait un ciné-club et on projetait des films extraordinaires, dont le cycle de Bergman qui m'a marqué, le septième sceau et ainsi de suite. Cette photographie de Sven Nykvist, le cinéaste le photographe le caméraman de Bergman, ces images noir et blanc m'ont toujours marqué. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la photo. Voilà.
Alors, vous avez longtemps vécu en Europe. Qu'est-ce qui vous a fasciné en Chine au point d'y retourner et de vous installer à Shanghai ?
Oui, non, moi, je dirais que c'est comme tout le monde, puisque la Chine attire pas mal de monde avant déjà l'an 2000. Et moi, je me suis dit, oui, vers l'an 2000, je serai certainement en Chine. Et puis, le hasard a voulu que je sois effectivement posté en Chine. Et très vite, j'ai quitté la vie corporate pour m'amuser, entre guillemets, pour passer plus de temps sur ma passion, parce que je me suis rendu compte que la photographie était pas du tout développée en Chine. Je suis allé au festival de Pignan en 2001-2002 et il y avait très peu de gens qui connaissaient vraiment la photo. C'est vraiment l'enthousiasme des Français, dont Alain Julien, qui est le neveu de Marc Ribou, et Marc Ribou, le père spirituel un peu du festival de photographie à Pignan, qui ont commencé à semer ce virus en Chine pour la photo. Et à partir de Pignan, avec les amis photographes chinois, on commençait à parler de... Moi, je dis, c'est pas possible qu'aucun musée en Chine fasse de collection de photographies. Et donc, ces photographes du Sud ont commencé à parler avec le directeur du musée de Canton. Et le directeur du musée de Canton a commencé première initiative en Chine de faire une expo de 600 photographies, de 300 photographes chinois, intitulée « L'humanisme en Chine ». Et le catalogue est superbe. Je crois qu'ils ont fait, je sais plus, troisième ou quatrième édition. Le catalogue est vendu à 50 000, 60 000, un tirage énorme pour un livre de photos. Et le musée de Canton est aujourd'hui en Chine le premier musée qui a une collection dépassant 10 000 tirages.
Oui. Alors, ça veut dire que la collection de photographie a commencé tard, mais par contre, l'histoire de la photographie chinoise, elle, est déjà ancienne.
Oui, on peut dire que l'histoire de la photographie chinoise a commencé avec la guerre de l'opium, pratiquement, puisque Julie Thiers, le chef des douanes envoyé par les Français pour signer ce traité inégal avec les Chinois, il avait amené son appareil, enfin sa de photo, il a fait un daguerreotype du vice-roi de la dynastie mandchoue qui signait le traité. Je crois que c'était en 1844, quelque chose comme ça. Donc c'était le premier portrait photographique d'un officier chinois ou d'un chinois, hein, tout simplement. Donc c'est la première photographie chinoise en Chine.
Mais pas prise par un chinois.
Non, malheureusement. Et comme, mais c'est ça, la photographie en Asie en général, c'est effectivement des missionnaires ensuite qui sont venus, qui ont commencé à prendre des photos. Il y avait des Italiens, des Belges, des Suisses, des Français et des Anglais. Et notamment un Anglais qui s'appelle Felice Beato, d'origine grecque ou italien, qui a suivi le corps expéditionnaire de la deuxième guerre d'opium, qui est venu en 1860, qui a photographié d'abord Canton. Ensuite, il a accompagné l'armée jusqu'à Pékin. C'est lui qui a photographié le palais d'été avant l'incendie, avant le sac. Et Felice Beato est ensuite parti au Japon. Et il a commencé la photographie japonaise là-bas. C'est comme ça que, en 1966, déjà, le Japon pouvait se targuer d'avoir organisé les centenaires de la photographie japonaise, parce qu'il datait la naissance de la photographie japonaise à 1866. Quand Felice Beato est arrivé au Japon, a commencé à faire des photos de geisha, de samouraï. Il a fait des portraits extrêmement beaux du Japon. Alors que, bon, en Chine, la photographie, finalement, proprement dite chinoise, est née avec vraiment la concession à Shanghai. Pour des besoins donc de mariage, les Occidentaux avaient créé des studios photographiques, qui ont commencé à former des assistants chinois. Donc les assistants chinois, ayant appris l'art de la pose du studio, ont commencé donc à travailler pour des bourgeois chinois qui imitaient les Occidentaux, qui avaient des mariages donc en robe de mariée, en redingote, etc. Donc c'était la mode à l'époque. Donc il y avait une tradition de photographie de studio bien encadrée, bien sur du papier carton tamponné et tout. Malheureusement, beaucoup ont disparu. Vous savez, après la révolution culturelle est arrivée. Donc aujourd'hui, quand on trouve des photos comme ça dans soi-disant des marchés aux puces en Chine, très souvent c'est des faux ou des contrefaçons. Ouais. Et petit à petit, donc, des photographes chinois un peu plus sérieux ont commencé à faire des photos eux-mêmes. Comme l'histoire de la photographie en Occident, on commence d'abord à imiter un petit peu la peinture classique. Donc, le plus célèbre, c'était Liang Jingshan. Je crois qu'en France, on le connaît sous le nom de Liang Jingshan, il a été d'ailleurs invité à Arles quand il était presque centenaire. C'est un très grand monsieur qui est à l'origine de la photographie chinoise. C'est de très beaux paysages, presque à la manière de tableaux à l'encre de Chine, Shan Shui Montagneo, avec calligraphie dessus, avec un tampon rouge sur le tirage photographique.
Qu'est-ce qui fait la force de la photographie chinoise contemporaine?
Ou en un mot, très simplement, j'imagine que c'est cette absence d'histoire et absence de culture qui fait que c'est comme l'art contemporain chinois, c'est un petit peu ni queue ni tête. Donc il y a une créativité très libre, très forte, et en plus il y a un passé, évidemment, on peut pas le nier, socialiste, socialisant à cause du régime politique. Sortant de 30 ans de chape de plomb, les artistes ont voulu s'exprimer librement. Donc si on veut parler de photographie chinoise contemporaine dans le sens de art contemporain, c'est assez débridé, assez libre, et énormément de photos travaillées à l'ordinateur. Pratiquement, il y a des photographes qui font de la photo 100% générée par l'ordinateur aujourd'hui. D'ailleurs, les Chinois eux-mêmes se grattent la tête parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'historien, il n'y a pas de commissaire, il n'y a pas de curateur. Il n'y a aucun musée qui se penche sérieusement sur la photographie chinoise. C'est le travail des maisons de vente aux enchères, de quelques galeristes et des critiques d'art qui se sont maintenant installés dans la critique de photographie. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques professeurs qui enseignent dans les universités. Donc tout le monde se gratte la tête. C'est quoi la photographie chinoise? Parce que évidemment, pendant les années glorieuses, années 50, 60 et 70, jusqu'à la fin de la révolution culturelle, c'était une photographie complètement politique, de commande politique et de photographie de propagande purement. Et toutes ces photographies appartiennent au parti. On n'avait pas le droit de signer de son nom. C'est qui est devenu ensuite toute l'archive de l'agence Chine Nouvelle, Xinhua. Donc quelques photographes aujourd'hui ont accès à leurs archives, ils ont pu refotographier leurs photos pour constituer un fonds pour pouvoir commencer à vivre en vendant ces photos-là. Mais dès les années Deng Xiaoping, la libération progressive du contrôle et de la censure, les photographes chinois ont commencé à travailler donc sur la photographie documentaire ou à faire du reportage photographique ou alors un travail artistique indépendant, mais quand même très marqué justement par cette photographie officielle de pose, de très formaliste, ou bien par la photographie de salon, qui est cette tendance toujours à rechercher à reproduire l'esthétique de la peinture traditionnelle chinoise. D'où la floraison d'associations de photographes chinois partout dans les provinces, dans les villes et au niveau national, et qui font à peu près la même chose, coucher du soleil, lever du soleil, les oiseaux, les grues, les animaux rares, et très travaillé au Photoshop.
D'accord. Si vous deviez citer quelques grands noms de la photographie chinoise, vous diriez qui?
C'est très difficile puisque...
Ceux que vous aimez, allez, on va être partisans.
Je dirais objectivement, les maisons de vente aux enchères comme Christie et Sotheby's ont fait un classement de cette façon-là et certaines photographies sont considérées comme de l'art. Donc ils les vendent dans la section art contemporain. Et donc parmi ces photographes, il y a par exemple un qui est très célèbre, qui s'appelle Wang Qingsong, qui fait de grands tableaux de mise en scène, où lui-même il prend un rôle dedans. Donc ses premières photos les plus connues, c'est qu'il est complètement peinturluré en or, comme un Bouddha doré, et tenant des boîtes de Coca-Cola dans la main, ou avec des symboles de McDonald's derrière lui. Et donc c'est significatif d'une époque de la sortie du régime communiste, allant vers le consumériste, les choix difficiles entre rester pur, rester traditionnel, et ou l'attrait du matérialisme. Mais on sait aujourd'hui ce qu'est devenu la Chine. Il y a cette tendance-là. Il y a par contre d'autres qui ont exploré d'autres voies, donc à mi-chemin entre la photographie documentaire et la photographie dite art contemporain, il y a la nouvelle photographie, dont le plus représentatif c'est Rong Rong, qui est le chef de file de la photographie de Pékin, qui a créé son centre Three Shadows à Pékin, avec de très grands photographes, notamment Liu Zheng, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a fait une série extraordinaire qui s'appelle Les Chinois, The Chinese, très Dan Arbus, qui est un travail sur plus de 10 ans, où il a parcouru la Chine, saisissant des portraits extraordinaires de d'hommes d'affaires, de prostituées, de paysans, de prisonniers chinois, format au carré, avec flash, très Dan Arbus. C'est un photographe aussi qui a une sensibilité à fleur de peau. Aujourd'hui, il travaille toujours sur de la photographie pure, c'est-à-dire toujours argentique, noir et blanc, mais une création très très forte. J'aime beaucoup ce photographe. Par contre, il y a des photographes documentaires qui sont très fortes, dont le plus connu, c'est Lu Nan, qui a travaillé sur les asiles de fous, qui a travaillé sur les catholiques clandestins, qui a fait une série extraordinaire sur les Tibétains. très clair-obscur, noir et blanc, de superbes tableaux, très très beaux. On dit qu'il est pressenti d'ailleurs pour rentrer au Magnum. Est-ce que ce sera le premier chinois à entrer dans l'agence Magnum? Ce serait Lunan. Tout le monde est en train d'attendre qu'il y ait un premier photographe à entrer dans l'agence Magnum. À côté de ça, il y a évidemment pas mal de vétérans qui ont entre 50 ans et 60 ans. Ce sont des photographes qui ont commencé le mouvement de photos, d'expos de photos dans les années 80, fin des années 80. D'ailleurs, puisque je viens de faire la rétrospective de Marc Riboud en Chine, qui suscite de nouveau pas mal de débats, tout le monde se souvient qu'en 89, un magazine chinois a publié pour la première fois un article sur les photos de Marc Riboud sur la Chine, puisque Marc Riboud a déjà couvert la Chine en 57, en 65, en 71, pendant que les Chinois étaient enfermés dans un carcan de photos propagande. Donc les photographies de Marc Riboud servaient de référence pour les jeunes photographes dans les années 80 qui ne savaient pas comment prendre des photos au naturel sur la société qui les entourait, les problèmes sociaux qu'ils rencontraient, etc. Donc beaucoup de gens ont étudié Marc Riboud. Cet article-là présentait Marc Riboud dans ses photos, des premières photos sur la Chine. Et je me souviens que des critiques chinois se sont posé la question. Il y avait un titre très frappant qui disait « Sommes-nous loin de Marc Riboud ?» C'est-à-dire que les Chinois essayaient de mesurer la distance qui séparait la photographie chinoise documentaire de l'époque par rapport à quelqu'un comme Marc Riboud ou le Cartier-Bresson. Alors aujourd'hui, je pense que le problème se pose moins parce que les Chinois sont un peu plus éduqués. Ils voyagent un peu plus, il y a beaucoup plus de photographes chinois, enfin internationaux qui viennent en Chine, il y a beaucoup plus d'échanges, des festivals de photos un peu partout. Donc il y a de très très bons photographes chinois un peu partout maintenant.
Alors vous défendez dans votre galerie Beaux Gestes plutôt la photographie humaniste et argentique. Pourquoi ?
Ben, je ne défends pas, c'est simplement parce que c'est mon penchant personnel premièrement. Et ensuite, je suis un peu bête, mais je considère que c'est un petit peu ma mission pédagogique d'éduquer le public chinois sur la vraie photographie. Je ne dis pas qu'il y a une fausse photographie, mais quand on tombe tout de suite dans le numérique, on ne sait pas ce que c'est que la photo. Je continue à croire à ça. Hier, j'étais donc au musée de Xi'an, où j'ai fait une conférence sur Marc Riboud. Et il y a eu pas mal de jeunes photographes chinois, d'étudiants de photographie qui m'ont posé la question pourquoi pas le numérique et pourquoi toujours l'argentique. Et je dis, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, la plupart des photographes de Magnum aujourd'hui sont passés au numérique. Je dis oui, c'est possible, mais n'oubliez pas qu'ils ont tous fait de l'argentique avant. Et vous, est-ce que vous avez fait de l'argentique? Évidemment, si vous ne connaissez pas les joies ou les subtilités du développement dans une chambre noire, vous pouvez pas passer complètement dans le numérique et comprendre ce que c'est que la création photographique. C'est ce que je vais un peu en substance expliquer. Donc je ne le défends pas, mais j'essaie de montrer dans la mesure du possible la bonne photographie chinoise, même si c'est pas parfait. Parce que dans la conception des Chinois, malheureusement, c'est la recherche de la perfection. Et c'est là que je dis que le numérique, on fait un tort énorme à la jeune génération chinoise. Le numérique et l'ordinateur et toute la technologie et les logiciels du Photoshop, ça permet de créer un monde tellement parfait, tellement idéalisé, qu'on oublie que la création, ça se fait vraiment avec une vraie culture de soi-même. Je cite toujours l'exemple d'un jeune photographe que j'ai vu, qui exposait dans une galerie, une série intéressante, très peinture chinoise, avec un cercle de montagnes et eaux, comme la peinture classique chinoise, mais on regarde de près, c'est une couverture de lit pliée pour former une montagne, et derrière, il y a le ciel bleu et les nuages blancs. Donc j'ai félicité l'auteur, j'ai dit, c'est super, ça. cette espèce de patchwork, ça doit appartenir à ta grand-mère. Est-ce que tu viens de telle province, de tel village? Est-ce que tu es allé chercher ça et tu as fait une photo extraordinaire, plein de culture, etc. Et lui, il me dit, mais non, j'ai fait tout ça sur l'ordinateur. Oh merde! J'ai dit, zut alors, mais tu as raté l'occasion de faire un truc vraiment profond, je lui ai dit. Tu te rends compte, s'il était retourné dans ton vieux patelin, dans Rebet, ou je sais pas, Roubaix, ou dans quel patelin, mais tu es vraiment allé voir ta, ton arrière-grand-tante ou ta, ton arrière-grand-mère, et tu dis, mamie, prête-moi ton vieux matelas, ta vieille couverture, et moi je le porte en haut de la montagne, de la colline, et je choisis un angle de prise de vue avec la forêt derrière, tu vois, les montagnes, les sommets derrière, et le soleil couchant ou le soleil levant, peu importe, mais tu fais une superbe photo qui permet de dater, marquer, tu vois, on voit la broderie dessus, on voit un travail de... etc. Mais faire ça sur l'ordinateur. Il me dit, mais j'ai passé quand même une semaine dessus, par photo. Et voilà, la recherche de la perfection. Parfois, j'ai du mal à faire comprendre à des jeunes Chinois le besoin de... C'est pour ça que la plupart des sujets photographiques que j'expose ici sont des sujets que un photographe chinois a mis 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois 10 ans, à faire pour former une série. Je trouve qu'il y a un sens énorme que je veux montrer. Christopher Phillips du Centre international de photographie de New York, avec qui j'ai eu un débat récemment, m'a confirmé qu'effectivement le centre suit énormément les jeunes talents en Chine, mais ils ont établi une règle qui les suivent d'abord au moins pendant 3 ans avant d'acheter quoi que ce soit, parce que ils se sont aperçus que les jeunes talents chinois qu'on a présentés comme des révélations, etc., au bout de 2 ans, 3 ans, ils arrêtent la photo. Ils font autre chose. Ils font soit du design, soit de l'architecture, soit ils changent complètement de métier. Ils ouvrent un restaurant où ils font de la mode pour gagner de l'argent, et ils font plus. Donc ça sert pas à grand chose pour le ICP d'avoir dans la collection des œuvres de jeunes talents prometteurs, mais qui ne promettent plus au bout de 2 ans. C'est le phénomène malheureusement en Chine, où on n'est pas sûr qu'un artiste, jeune artiste sorti d'une académie de beaux-arts, qui peut faire une création extraordinaire au début et qui n'a pas de suivi. C'est un petit peu le problème de tous les jeunes nés que les Chinois appellent des post-88ards, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années 80 à cause de la loi sur les enfants uniques. On a une génération non seulement d'amnésiques parce qu'ils n'ont pas un bon sens de l'histoire déjà de la Chine, qu'ils aient encore un sens de l'histoire de l'art mondial ou de l'art en Chine, proprement dit, c'est encore trop demandé. Et en plus, ce sont des jeunes qui sont très très frivoles au moins du goût et de consommation. Ils n'ont pas une culture déjà de la marque, donc ils achètent n'importe quoi et ils changent très vite. Donc c'est difficile de prévoir quel est l'avenir de la Chine. Mais parmi ces jeunes photographes, ce que je remarque, parce que c'est ça qui est bien en Chine, c'est qu'il y a le nombre. Sur 1,3 milliard de Chinois, il y en a des photographes. Quand on se promène au festival de Pingyao, on est étonné de voir le nombre de téléobjectifs, de gros appareils qu'on trimballe, que ce soit de l'ordi du numérique ou des vrais Hasselblad, des vieux Rolleiflex, des Leica, des Polaroid, un collectionneur de Polaroid, de vintage, il y en a plein. C'est impressionnant de voir l'argent dépensé par les Chinois sur l'équipement, sur tout l'accoutrement, tout l'uniforme du photographe, les trépieds, le gilet, la casquette, ils sont vraiment très 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 très, c'est une religion presque entrée dans la photo. Donc, je veux dire, parmi cette génération, cette masse, ce nombre, cette quantité de photographes, il y en a de plus en plus, j'ai le sentiment et je les connais, qui se détournent du numérique parce qu'ils disent tout le monde fait du numérique. Donc, pour choisir la difficulté, ils achètent un Leica d'occasion et, ou deux, et ils rentrent même dans des collections de vieux appareils vintage. Il y en a qui rachètent des Seagull, la marque chinoise des années 70-80, qui font de la photo avec. Il y en a qui, à Pékin, Liu Cheng, dont je parlais tout à l'heure, prépare même sa propre solution, qui travaille, qui fait sa, qui met sa solution sur une surface sensible, qui imprime, qui fait la photo, qui tire dessus. Donc c'est un petit peu un travail qui retourne sur le vrai travail d'origine de la photographie artistique. Je ne sais pas si c'est une recherche de sortir du lot et de choisir d'être parmi une élite, mais je dis c'est pas un mal que tout le monde maintenant se promène avec un appareil numérique, que le prochain iPhone génération 4 vient avec 5 mégapixels, avec des tas d'applications de logiciels qui permettent de faire des albums photos immédiats. Mais je dis c'est pas grave, il y a effectivement ceux qui jouent avec ça comme consommation, il y a d'autres qui sont très sérieux, qui commencent à réfléchir et qui font de la bonne photo sérieuse. Ouais.
Est-ce à dire que le sauvetage de l'argentique passera par la Chine?
C'est ce que je dis à beaucoup de gens, je dis rassurez-vous, Ilford et Kodak ont un avenir devant eux grâce aux Chinois.
Alors on pourrait parler peut-être de deux artistes, un que vous présentez en ce moment, qui s'appelle Shu Peiwu, et peut-être ensuite Lu Guang, qui m'avait beaucoup intéressé quand je l'avais vu il y a quelques mois chez vous.
Oui, ils sont très différents, puisque Shu Peiwu est un artiste qui travaille qu'en noir et blanc jusque-là. C'est un spécialiste de la ville. Il est normalement photoreporter pour le Quotidien du Peuple, édition de Canton. Cela n'empêche pas qu'il ait fait un travail extraordinaire sur le centre-ville de Canton, il y a plus de 10 ans, sur la disparition d'un état totalement bizarre de presque rural au centre de Canton, qui aujourd'hui devient le centre-ville le plus chic, avec l'opéra, la grande opéra de Canton qui est construite par Zaha Hadid. C'est dire, alors qu'avant, il y a 10 ans, c'était des porcheries. C'était des plantations, hein, c'était des familles de pêcheurs, et c'était aussi un village d'ordures. C'était le plus gros dépotoir de Canton. Et Supéou avait couvert ça. J'avais fait ce livre pour lui à l'époque. Je l'ai découvert à Pignau. Toute une atmosphère d'excellentes photos, très Cartier-Bresson, très Bernard Bishop, hein, on voit là, et un reportage sur la ville, mais qui fait penser à une guerre civile, avec une tension et une espèce de mélancolie. Voilà, c'est ces chômeurs qui foutent rien, qui appellent des philosophes dans ce village d'ordures.
Il y a un côté un peu après la catastrophe là.
Oui, c'est ça. Alors c'est pas très adroit, parce qu'après il a fait une série de noir et blanc et de couleurs pour montrer voilà ce qui avant et après. Et depuis, il a travaillé sur une autre, un village de pêcheurs au sud de Canton qui s'appelle Nansha, en panoramique, qui est également en train de transformer en port à eau profonde, une mégapole, parce que Canton, la ville de Canton voulait créer une espèce de Pudong à la manière de Shanghai. Donc, Supewu est parti là-bas. Il a aussi, en quelques années, photographié la transformation de ces villages de pêcheurs en ville moderne. Donc, il a appelé ça Nansha, le dernier lézard, parce qu'il avait photographié un lézard quand il était là-bas. Et il s'était dit, ce lézard, il a encore combien de temps à vivre, puisque quand les bétons arrivent, voilà, le grand hôtel de Nansha... assez ironique d'ailleurs, puisqu'on voit les chèvres, puisque Canton, on appelle ça la ville des chèvres. Canton, voilà le grand hôtel de Nansha avec des chèvres sauvages.
Donc une préoccupation environnementale.
Je ne sais pas, il n'est pas très conscient, mais c'est, je dirais que c'est toujours cet instinct de préservation, de dire pourquoi on détruit tout ça. Pourquoi on enlève on casse les maisons, les villages des paysans et on fait des terminaux, des gares routières, des centres logistiques, voilà. Ça c'est le travail de Supewu. Et puis avec l'argent qu'il a gagné en vendant un peu de photos, il s'est acheté un appareil très très cher, qui est une fabrication suisse, qui s'appelle Alpa, la marque Alpa. Donc c'est un appareil assez peu utilisé. C'est difficile à utiliser, il faut tenir un deux mains, avec un objectif Schneider et un viseur très spécial. Et on fait d'excellents... c'est un moyen format. On fait d'excellents photos de paysages. Donc, il a commencé à photographier ça en 2005. Et il me montrait les photos et je dis, c'est pas assez, il manque quelque chose, très beau paysage. Mais s'il y avait quelque chose de spirituel, quelque chose de transcendant, ce serait mieux. Puis j'ai trouvé une expression chinoise, Long Ma Jing Shen, dragon, cheval, spiritualité et Dieu. On traduit mot pour mot. Mais si on cassait cette expression en quatre mots, peut-être que tu trouverais parfois un esprit de tortue, un esprit de dragon. Tu pourrais Mao, par exemple, s'il y a une photo de Mao sur un mur, mais Mao, c'est un dieu en Chine, non? Et puis, donc, il a commencé à me trouver des photos dans ses pérégrinations. Au bout de 5 ans, on a de quoi faire une expo, voilà. Et on a donc une expo très cohérente, très solide, où il y a, on voit des paysages, des photos de ville, mais avec toujours quelque chose d'immatériel, de physiquement invisible, mais d'intangible, mais qui sont là et qui existent, qui marquent quand même profondément soit la campagne, soit la ville chinoise.
Toujours la notion de témoignage.
Oui, témoignage, mais avec la présence du sacré, en quelque sorte. C'est ce que je veux montrer, que dans le matérialisme ambiant, si on sait voir, en fait, le sacré est toujours là. C'est un peu la mission de ce que je fais ici, c'est d'apprendre aux gens à voir et de dire, il n'y a pas que les centres commerciaux, les Prada, Christian Dior... L'Oréal et je ne sais quoi, Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW, parce que c'est pratiquement que ça, Patek Philippe et Rolex, très bling bling la Chine aujourd'hui, mais on tend à complètement négliger la musique traditionnelle, la culture traditionnelle, l'art traditionnel et surtout le sens religieux, que ce soit religion populaire, je ne dis pas de grande religion, mais la Chine a toujours eu une religion populaire, mystique ou animiste, mais ça disparaît et c'est dommage. Et ça devrait être visible et ça, on devrait partir à la redécouverte de tout ça. Voilà, c'est un petit peu le travail de cette série.
À propos de religion, il y a une photographie impressionnante des Yao et donc de deux chamans. Donc des chamans, évidemment, il n'en existe plus du côté chinois, c'est dans les minorités ethniques.
Mais oui, ça c'est une photo assez extraordinaire, en plus visuellement très très classique, c'est vraiment une photo de noir et blanc, l'utilisation de la lumière et de l'ombre. C'est une rencontre aussi assez extraordinaire de quand on se promenait dans la campagne de Lianzhou, à la sortie du festival Lianzhou, je crois que c'est en 2005 ou 2006, je sais plus exactement, on est tombé sur un mariage Yao, chez les minorités Yao, et dès qu'on a fini le mariage, on est tombé sur une procession funéraire pour l'enterrement d'un roi Yao, avec des kilomètres de pétards qui pétardaient dans la vallée, des centaines, des milliers de Yao en vêtus de deuil qui défilaient, accompagnaient la dépouille du roi Yao. Et on était tellement frappé par cette rencontre inattendue. Et Chupébou a fait cette photo extraordinaire avec donc la fumée des pétards derrière et deux chamans au premier plan, visage peint en noir, tenant un sabre et une hache, hein, l'autre chaman avec une poule noire accrochée à sa ceinture. C'est très très impressionnant. Et c'est ça aussi la Chine, qui est dès qu'on sort un petit peu de la ville, et dans le sud de la Chine, très souvent, en plein milieu de la ville, on peut trouver une coexistence avec la campagne. C'est-à-dire la Chine est ainsi où à la campagne chinoise, on a en même temps des éléments citadins, urbains, qui coexistent avec le rural. Par exemple ici Taikanglu à Shanghai, la rue artistique qui devient maintenant très à la mode à cause de l'expo universelle, en se promenant dans les allées, tu peux voir des puits qui sont fermés aujourd'hui, mais c'est des puits, c'est-à-dire ces maisons construites par les Français et des Anglais pendant la concession internationale, il n'y avait pas d'eau courante. On construisait ces maisons pour les vendre aux Chinois, mais les Chinois n'avaient pas d'eau courante, donc ils pouvaient prendre, ce n'était que de l'eau du puits. Il n'y avait pas non plus de sanitaire, donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, les papis et les mamies sortaient tous les matins et soirs avec leurs pots de chambre, les lavaient en public. C'est cette coexistence avec un style de vie traditionnel et la modernité qui est très frappant en Chine. Et dans la suite de la Chine, on peut rencontrer ça... un tout coin de rue. C'est pour ça que j'aime beaucoup retourner dès que possible voir, découvrir ces églises catholiques au milieu d'une rizière complètement en ruine, ou ces châteaux forts dressés par des Chinois immigrés aux États-Unis qui reviennent construire des châteaux forts.
C'est ça, Kaiping, c'est ça?
Kaiping et Taishan. Donc dans la province de Canton, qui fait partie aujourd'hui du patrimoine mondial, classé à l'UNESCO, patrimoine mondial. C'est vraiment extraordinaire à visiter.
Autre photographe que vous avez présenté il n'y a pas longtemps, Lu Guang.
Oui, Lu Guang est un cas complètement à part en Chine, puisque il a commencé dans la pub, hein. Il avait fait des études de photo, mais il a monté un studio photographique. Il a travaillé, donc faisait de la photo alimentaire. Et très vite, il s'est rendu compte qu'il y avait autre chose que de gagner de l'argent. Et il s'est intéressé, par exemple, très tôt à des sujets difficiles, sur les mineurs, sur des chercheurs d'or. Et la série qu'il a fait connaître, c'était sur les villages du Sida dans le Henan. À l'époque où il y avait des centaines de milliers de paysans contaminés à cause du trafic du sang, et au risque de se faire vraiment battre presque à mort, il a pénétré le village du Sida et il a fait une série extraordinaire qui fait qu'il a été reconnu par un WordPress Photo, un prix en 2004. Et depuis, il s'est assigné comme mission, c'est vraiment lui, personne ne lui a rien dit, de sauver la Chine des eaux. C'est le cas de le dire, parce qu'il s'est rendu compte très tôt que l'eau était un problème crucial pour la Chine et que les 7 grandes rivières en Chine sont menacées. Le Yellow River, le Huanghe, le fleuve jaune, ou le fleuve bleu qui est le Yangtze, sont pratiquement morts ou complètement imbuvables, non potables à 70 à 80%, selon d'ailleurs Greenpeace et d'autres organismes très sérieux sur la pollution des eaux en Chine. Il est venu un jour me voir à Shanghai en disant je me fais du souci pour ta santé, Jean, parce que l'eau que tu bois à Shanghai est foutue. Je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que l'eau que tu bois vient du Yangtze, tu sais. Je dis, oui, je sais. Mais je te montre la carte. Il me déroule une carte et je vois dessus le fleuve Yangtze avec le long du fleuve des tas de points, de cercles colorés, en bleu, en jaune, en rouge, en vert. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, ce sont les différentes usines chimiques, d'engrais, de production polluante qui déversent leur saleté dans le fleuve jaune. Tu sais, t'es foutu. Parce que c'est pas bon à boire, ça. Et je vais te montrer les photos. Donc il allume l'ordinateur, il me montre les photos. Donc j'étais vraiment frappé par cette espèce de scandale, parce que ce geyser, il y a certains spectateurs qui sont venus qui ont dit que ça ressemble à du Coca-Cola, parce que c'est très beau en même temps, parce que c'est la photo à vie couleur. Mais ce geyser de Coca-Cola qui jaillit au milieu du fleuve du Yangtze, c'est le travail des usines chimiques qui sont très malines maintenant, qui enterrent leur pipeline sous la terre et qui conduisent leurs eaux sales jusqu'au milieu du fleuve. Et ils déchargent leurs eaux sales à minuit pour qu'on ne les détecte pas depuis les rives. Et Lu Guang a loué un bateau de pêche. Il s'est déguisé en pêcheur. Il est allé au milieu du fleuve. Il a attendu et quand l'eau jaillit, ils font la photo. Et les poissons meurent, crèvent, flottent sur la surface. Voilà, et
les hommes aussi meurent.
Et puis, ce qui est grave, c'est que personne n'a jamais fait ça. Il est allé photographier les victimes, des enfants qui sont nés complètement déformés parce que leurs mères ont bu de l'eau polluée. Donc, problème de croissance, de déformation congénitale. Et ensuite, ces enfants sont abandonnés. Donc il y a des orphelinats et parfois quand il n'y a pas d'orphelinats, ce sont des paysans qui les adoptent. Donc on a une photo extrêmement poignante d'une femme qui est une ramasseuse d'ordures, indignement une vendeuse de produits recyclés. Elle-même personnellement a adopté 25 enfants handicapés. Comme cet enfant avec cette espèce de botte de femme sur sa jambe, c'est très bizarre là, elle est sur un tricycle et pédale avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants dans son dos. Ce sont tous des enfants abandonnés, récupérés par elle.
Et il n'y a pas eu d'interdiction pour faire ces photos, ni même pour les montrer?
Il n'y a pas d'interdiction dans le sens où, c'est sûr, il n'y a pas de loi qui t'empêche d'aller faire des reportages. Mais évidemment, il n'est pas du tout accueilli à bras ouverts par les autorités locales qui ont fait venir. C'est pour ça que Lu Guang est très, très attentif à ne pas mettre sur les légendes vraiment que c'est la faute de telle localité, telle commune. Parce que là, il risque gros. Donc, il a appelé sa série Pollution en Chine. Et il a soumis, à partir de 30 000 négatifs, il a fait une sélection de 40 photos. Il a soumis ça à la fondation Eugène Smith. Et il a fini par gagner donc le prix Eugène Smith pour la photographie humaniste en 2009. Premier photographe chinois à gagner ça. Donc il est aussi donc maintenant l'égal des Jim Nachtwey, des Salgado, des Eugene Richards qui ont été couronnés reconnus par la fondation Eugene Smith. Et il s'est pas fini, il continue à photographier parce que il a là la 7 séries qu'on a exposées portées sur 3 rivières. Il dit il en a encore 4 à photographier. En plus maintenant il se concentre sur la chaîne alimentaire.